Chapitre 56. À la lueur d'un halogène, Nicolas ajusta le clou sans tête et le frappa vivement avec son marteau pour fixer la latte au tasseau. Il se redressa ensuite dans une grimace. Il avait passé 2 heures, tantôt agenouillé, tantôt arc-bouté, à couper, encastrer et clouer ce fichu lambris sur l'une des cloisons de la chambre du bébé. Il recula d'un pas et observa. Pour un non-bricoleur, il n'était pas mécontent du résultat. Son fils se plairait dans ce petit nid de bois et, même si Audra n'était pas fan du lambris, Nicolas savait qu'elle aurait fini par adorer. Il était quasiment 22 heures et il était exténué. Il laissa les outils en place, se rendit dans la cuisine et balança un plat surgelé dans le micro-ondes. Le courrier s'accumulait depuis 2 semaines sur la table, papier d'assurance, facture. Il faillit tout jeter à la poubelle, puis se dit qu'il les ouvrirait plus tard. Tout en avalant ses boulettes de viande et ses spaghettis en sauce, il feuilleta le Libération du jour. Un article occupait une pleine page. « Quand la justice s'invite au chevet des patients », titrait-il. On y évoquait des cas de coma médiatisés, notamment ceux de Vincent Lambert et de Vincent Humbert, des presque homonymes qui avaient toujours semé le trouble dans l'esprit des gens. Des noms étrangers comme Charlotte Wyatt, Terry Schiavo, Alfie Evans étaient également cités. Et évidemment, le papier faisait la part belle à Audra Speak. On retraçait des histoires terribles, émouvantes, qui, à partir du moment où la justice mettait les pieds dans le plat, se terminaient en déchirement, en drame dans le drame. Les lois de la République ne proposent qu'un cadre général et non une exploration de la singularité d'une situation. Pourtant, chaque cas est aussi unique que les 7 milliards de personnes qui peuplent cette terre, que ces femmes et ces hommes faits de chair et d'émotions, de convictions respectables et humaines, mais pouvant aboutir à une incompatibilité. La médiatisation à outrance, les pressions politiques, les enjeux économiques font que ce n'est plus la médecine qui, aujourd'hui, accompagne les malades dans leur fin de vie, mais la société tout entière. Chacun d'entre nous veut avoir son mot à dire, et derrière son écran, à coups de tweets malsains ou de messages anonymes, se transforme tantôt en juge, tantôt en coupeur de tête. Arrêtons-nous un instant sur l'un des exemples les plus parlants de ces dernières années. Un exemple qui démontre à quel point le système peut conduire à des aberrations. Celui de Jai McMath. Retour en arrière. Cette jeune fille est déclarée en état de mort cérébrale dans un hôpital d'Auckland le 12 décembre 2013 suite à une hémorragie massive qui a privé trop longtemps son cerveau d'oxygène. Après des examens minutieux, un certificat de décès est établi. Selon les lois de Californie, Jai est officiellement morte. Dès lors, sa famille est informée de l'interruption des traitements, mais celle-ci refuse ce verdict, qui repose sur des critères neurologiques, et engage des poursuites. L'établissement, pris dans l'étau juridique, est contraint de maintenir les dispositifs d'assistance sur la patiente. Une bataille de robes noires conduit finalement l'hôpital à accepter de rendre la jeune Jai à ses proches, qui organisent le transport médical vers le New Jersey, là où il est possible de nier catégoriquement un diagnostic de mort cérébrale. Dans cet état de l'Est américain, Jai est désormais considérée comme vivante, alors qu'elle est décédée en Californie. Avec l'aide de soins infirmiers, 24 heures sur 24, d'un ventilateur ainsi que de sondes trachéales et d'alimentation, elle vivra pendant près de 5 ans chez elle, auprès de ses parents, jusqu'à ce qu'une insuffisance hépatique l'emporte biologiquement. Jai a aujourd'hui 2 certificats de décès. L'un établi en Californie, daté du 12 décembre 2013, et l'autre au New Jersey, daté du 22 juin 2018. Entre les deux, elle a grandi sans jamais avoir manifesté le moindre signe de conscience. Détail déroutant mais parlant, en atteignant la puberté, elle a eu ses menstruations. Elle était féconde, en mesure de donner la vie. Qui donc est capable sur cette terre de dire si, en définitive, cet enfant devenu femme sur un lit médicalisé, alimenté par des machines et qui n'a plus jamais bougé un petit doigt, était morte ou vivante? Nicolas termina sa lecture, le cœur brisé, tant le parallèle avec Audra était troublant. Ému, il mena des recherches sur Jai, dont l'histoire bouleversante avait divisé l'Amérique. Ses parents avaient en effet été considérés comme des sauveurs par certains et comme des tortionnaires par d'autres, parce qu'ils refusaient de laisser leur fille partir en paix. Pour lui, ils n'avaient fait que ce qui leur semblait juste, parce qu'ils l'aimaient. Dans le fond, ils n'avaient pas souhaité toute cette médiatisation autour d'Audra. Ces déchirements par avocats interposés, ces guerres de tranchées sur les réseaux et tous ces abrutis de politique qui faisaient de la récupération et jouaient le rôle de faux éplorés. Mais avait-il eu le choix? La médecine avait décidé de lui arracher son enfant, de le priver du bonheur d'être père. Lui, ce qu'il désirait, c'était entretenir du mieux qu'il le pouvait la petite flamme qui le relierait pour toujours à l'amour de sa vie. Est-ce qu'il l'évoquait, ça, dans leurs fichus articles? Est-ce qu'il s'interrogeait sur ce que lui ressentait? Il avait à peine avalé deux bouchées, mais déjà il n'avait plus faim. Toute cette mélasse scientojuridico-politique le dégoûtait. Martin Corneille avait raison. Il devait se tenir le plus loin possible de ce tapage obscène. Restait moins de 2 mois à devoir faire face, puis Audra pourrait s'en aller. Quand bien même son fils naîtrait, ce ne serait pas simple. Mais il aurait une bonne raison de se battre pour remonter la pente. « Alors c'est ici que vous vivez ?» Nicolas sursauta et se retourna. La silhouette de Christian Speak se découpait dans l'embrasure de la porte. Un personnage qui paraissait tout droit sorti d'un film noir, avec cette frange d'ombre en diagonale qui lui barrait le visage et lui cachait les yeux. C'était ouvert, il y avait de la lumière, je me suis permis. L'homme portait un gros manteau trois quarts, une élégante écharpe en cachemire et des gants en cuir. Un Stetson complétait le tableau. Le flic se leva sur la défensive. Speak était seul. « Vous êtes sacrément culotté de vous pointer chez moi à une heure pareille. Où est votre chien-chien d'avocat? Qu'est-ce que vous voulez ?» Le visiteur ôta son chapeau d'un geste lent. Il fit un pas en avant et balaya la pièce du regard, sans masquer un dégoût manifeste. « Que vous ne vous opposiez pas à la décision de la justice, qui a été depuis le début celle du comité d'éthique. Ne lancez pas votre recours devant le Conseil d'État demain, et laissez Audra nous quitter. » Nicolas le fixa froidement quelques secondes et alla débarrasser la table. Vous pouvez rentrer chez vous et refermer la porte, s'il vous plaît. Christian Speak demeura planté là avec la détermination d'un crotal devant une mangouste. Le flic sentait la haine qui suintait par tous les pores de la peau de cet homme. Il revint vers lui d'un pas franc, le visage cadenassé. Vous savez que vous êtes coincé. Que le temps me donnera raison et que toutes les actions que vous pourriez entreprendre ne feraient que ralentir encore le processus. Alors maintenant que vous êtes acculé, vous venez me supplier. Vous qui, dès notre première rencontre avec le médecin, avez osé vous pointer avec un avocat alors qu'il était question de la vie de votre fille. C'est vous qui avez déclenché l'incendie. Mais il est trop tard pour éteindre le feu. Vous vous trompez. Je ne suis pas venu vous supplier, mais pour vous faire une proposition. Speak s'avança jusqu'à la table, tira une chaise et s'assit. Puis il sortit son carnet de chèques. Combien ? Il fallut un instant à Nicolas pour saisir ce qui était en train de se passer. Vous voulez acheter la mort d'Audra ? C'est bien ça que vous comptez faire ? Ma femme et moi, on veut juste que ce calvaire cesse. On veut enterrer notre fille, faire une belle cérémonie, vous comprenez ? Nous sommes loin de chez nous. Nous dormons dans une chambre d'hôtel pour rester auprès d'elle. Vous imaginez, la voir ainsi est une souffrance abominable. Bélanger se mit à aller et venir, la tête entre les mains. Ça n'a aucun sens. Votre présence ici, cet argent. Bon sang, pourquoi vous vous acharnez à souhaiter la mort de ce bébé? Pourquoi vous? Il s'arrêta net de bouger. Une pensée venait de le percuter. Une pensée incongru, impossible. L'héritage, souffla-t-il du bout des lèvres. Un éclat brilla dans le regard noir de Christian Speak. Finissons-en au plus vite. Combien ? Nicolas dut s'asseoir à son tour pour ne pas vaciller. Alors c'était ça, depuis le début. Audra est votre unique enfant. De ce fait, si mon fils naissait, il serait par filiation le seul héritier de tous vos biens. Bon Dieu ! Dans la seconde où vous avez su qu'Audra ne reviendrait pas, vous avez songé à ça ? Vous êtes un monstre. Ce jour-là, le flic avait vu et entendu des horreurs au bureau, mais d'une certaine façon elle leur témoin que l'effroyable vérité qui émergeait. Le feu brûlait en lui, lui tordait le ventre. Il serra les poings jusqu'à s'en faire mal. « Voilà ce que vous allez faire, monsieur Speak. Vous allez bouger votre cul de ma chaise et foutre le camp d'ici avant que je pète un câble. Et je vous préviens, si vous avez le malheur de vous pointer encore chez moi ou de vous retrouver sur mon chemin, je vous défonce le crâne. Le fric n'achète pas tout. Ce bébé va naître. Et quand il sera en âge de comprendre, je lui expliquerai quel genre d'homme vous êtes. » Christian Speak se pinça les lèvres, contrarié. Il se leva pourtant et rangea, toujours avec cette même lenteur insouciante, son chéquier dans la poche intérieure de son manteau, dont il rajusta le col d'un geste tranquille. Je m'en doutais un peu, pour être honnête. Je ne sais pas ce qui a pris à ma fille de faire un gosse avec un type comme vous. Vous n'êtes qu'un minable, un flicaillon de seconde zone qui vit dans un trou à rats. Une fois son fiel déversé, il mit son chapeau, se dirigea vers la porte et, avant de la franchir, se retourna. Vous serez le seul et unique responsable de tout ce qui pourrait se passer à l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Christian Speak l'observa, un rictus sur les lèvres.
Vous verrez.
Puis il sortit, claquant violemment la porte derrière lui.